deuxième congrès virtuel francophone de FT. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, j'aimerais juste rappeler qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats sur vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. La conférence de ce soir s'intitule « La quête d'approbation, un emploi à plein temps ». Il me semble que tout le monde est d'avis que l'amour est une chose merveilleuse, sauf bien entendu quand il devient un problème. Deux autres préoccupations accompagnent l'amour de très près, l'appréciation et l'approbation. On consacre une énergie infernale à plaire, impressionner, conquérir l'amour des autres. Pourquoi cela ne mène-t-il pas au bonheur? Pourquoi arrive-t-il que cette quête n'aboutisse jamais? Notre conférencière s'intéresse de près à la quête du bien-être et à ce qui marche ou ne marche pas dans notre quête d'amour. Depuis près de 20 ans, elle s'intéresse au développement et à la croissance personnelle. Les thèmes tels que la motivation, l'estime de soi, la confiance en soi la passionnent. Le bonheur est inévitable. Mais comment faire? Elle est master coach certifiée et elle est entre autres formée aux outils de coaching tels que les neurosciences motivationnelles. Elle utilise l'EFT pour elle-même et dans son cadre professionnel depuis de nombreuses années, dans des formations, anime des ateliers à thème, organise des journées de pratique et de supervision. Si vous avez, vous aussi, un besoin de reconnaissance ou une peur d'être rejetée un peu trop présente, alors écoutez bien cette conférence. Elle va nous indiquer comment l'EFT se met à notre service. Si vous souffrez actuellement parce que votre quête d'amour et d'approbation traverse une mauvaise passe, vous gagnerez à faire de l'EFT. Nous libérer de nos histoires et découvrir une autre réalité, voilà ce qui nous est proposé ce soir. Qui serais-je sans mon histoire? Voilà une question qui mérite notre attention. Je suis heureuse de vous présenter mon amie et associée dans ce merveilleux projet qu'est le congrès virtuel EFT, Noël Cassin.
Bonsoir Maria et merci Maria. Merci de m'avoir donné tout ce travail de préparation et d'organisation pour ce congrès, qui est quand même une expérience extraordinaire, et merci d'offrir ce rendez-vous devenu annuel de l'EFT. J'ai participé avec enthousiasme et écouté avec passion celui de l'année dernière, et je suis une fois de plus très heureuse d'être présente à celui-ci. Afin de préparer cette conférence, j'ai approfondi cette question de quête d'approbation, et j'ai été vraiment étonnée du nombre incroyable de croyances, de pensées, d'émotions et tous nos comportements qui nous mènent dans l'enfer du « je serai aimé si » ou du « je serai aimé quand »,« je ne veux pas qu'on puisse penser que je ne suis pas à la hauteur », »,« je ne veux pas qu'on dise de moi que »,« ils vont penser, que vont penser les autres si je fais ceci ou si je fais cela ». Alors j'ai la chance de rencontrer régulièrement des coachs de tous horizons, des thérapeutes formidables et des personnes sages qui partagent leur savoir-être et leur savoir-faire sur cette question de la quête d'amour et d'approbation. Et puis j'ai aussi la chance de croiser sur ma route quelques mentors que je trouve vraiment fameux, soit à travers des livres, soit lors de séminaires. Certains ont eu sur moi une influence particulièrement importante et ils m'ont aidé à me libérer de mes histoires. Je vais parler de Louise Hervé, Debbie Ford, Marianne Williamson et Katie Byron. Dans cette conférence, pour ceux qui connaissent ces personnes-là, vous y trouverez leur influence. Louise Hervé m'a enseigné l'art de l'EFT. Debbie Ford, Marianne Williamson et Katie Byron n'emploient pas l'EFT, mais je me sers beaucoup de leur enseignement dans ma pratique de l'EFT et de coaching. Dans la partie ressources du site, vous y trouverez les références que je te donnerai, Maria, de certains de ces livres que je recommande particulièrement.
Alors, tu dis que ces mentors t'ont aidé à te libérer de tes histoires et peut-être même de ton histoire. Mais de quelles histoires est-il vraiment question ici, Noël?
Alors, comme tu l'as mentionné dans ta conférence, pour beaucoup d'entre nous, nous avons des histoires de pauvres de moi, par exemple. Et ça, c'est pas un problème d'avoir ce genre d'histoire. Ce qui est un problème, c'est de rester coincé dedans. Être un pauvre de moi, de temps en temps, et pour quelques instants, ce n'est pas un problème. Et puis c'est tellement humain. Je parle de ces histoires qu'on se raconte à soi-même tous les jours, tel un disque rayé. Ce sont des histoires que nous raconte notre voix intérieure, notre petite voix, notre critique interne, certains l'appellent comme ça. Des histoires sur ce qu'on devrait être, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait dire, paraître. Des histoires qui commencent souvent par « il ne faut pas, je ne dois pas, je devrais ou il devrait pas, et il faudrait ». À travers ces pensées, nous luttons contre la réalité et c'est ce qui nous provoque la souffrance en fait. Que se passe-t-il en nous ? Que se passe-t-il en nous quand je me dis « il ne faut pas que je m'énerve et que je le fais ou que je le ressens quand même ?» C'est comme se dire « il pleut, mais il devrait faire soleil ». Comment je me sens quand j'ai une pensée comme celle-là ? Cesser de se battre contre la réalité, c'est une clé essentielle à notre bien-être. Et en EFT, nous tapotons sur ça. Par exemple, on tapote sur le point karaté, on l'a vu de nombreuses fois pendant ce séminaire. Donc sur le point karaté, on va dire, même si je m'énerve, et ça m'énerve de m'énerver comme ça, alors que je préférerais ne pas m'énerver, je suis OK avec ça, je m'accepte, je m'aime tel que je suis. Lors de la conférence de dimanche soir, Sabrina a très bien parlé de l'utilisation de l'EFT dans ce travail d'acceptation de la réalité et de ce qui est présent, ici et maintenant. Et puis il y a aussi des films du style « Pour être aimé, je dois être plus mince, je dois faire plaisir à tout le monde, je ne dois pas dire tout ce que je pense, je ne dois pas montrer mes émotions, je ne dois pas pleurer ». Des histoires comme ça, pour être apprécié, il faut que je sois plus gentil, par exemple. C'est des sortes d'histoires qu'on a commencé à se raconter quand on avait 5 ou 6 ans, et qu'on se raconte encore et encore et encore et tous les jours.
Tu peux nous donner un exemple de ta pratique ?
Par exemple, cette semaine, j'ai reçu un petit garçon de 6 ans et demi qui avait, selon les parents, un problème de colère. Ce petit garçon m'a dit que certaines choses l'énervaient. À 5-6 ans, on n'a pas encore un vocabulaire sur les émotions qu'on ressent très, très grand. Pour lui, voilà, il s'énervait, ça m'énerve. Ce qui l'énervait, c'était prendre sa douche, devoir prendre sa douche, ou quand il devait arrêter de jouer pour aller manger. Alors pendant la séance, je lui ai demandé, et si ceci ou cela ne t'énervait pas, tu pourrais te sentir comment ? Et il m'a répondu gentil. Ce petit garçon a déjà appris à 6 ans et demi que quand il a cette sensation d'être énervé, il n'était plus un petit garçon gentil. Et il est convaincu que pour être aimé, bien sûr, il faut être gentil. Et donc, il ne faut pas s'énerver. Et il le fait quand même. Il s'énerve, et il s'énerve assez fort. Et je ne sais pas du tout, il ne sait pas du tout comment faire pour ne pas s'énerver. Ce qu'il sait, par contre, c'est qu'il n'est pas gentil. Et donc, qu'il n'est pas digne d'être aimé, puisqu'il a ce comportement. En tout cas, à son âge, j'ai vraisemblablement compris la même chose, que pour être aimé, il faut être gentil. Et être gentil, souvent, ça veut dire, dans notre histoire, avoir le comportement qu'une autre personne attend, avoir le comportement qu'une autre personne attend de moi. Je ne veux pas que ça m'énerve, je le ressens fortement, et bien malgré moi d'ailleurs, et en quelques secondes, paf, je deviens quelqu'un de pas gentil. Notre quête d'approbation passe aussi par notre habitude de comparaison. Il fait mieux que moi, en tout cas c'est l'histoire que je me raconte. Je suis quelqu'un de moins bien, de plus agressif, je vais me comparer. Et de ce fait, je pense que je vais être rejetée, que je vais perdre l'amour. Et ce raccourci est douloureux, mais c'est tellement facile. C'est presque instantané et inconscient, c'est quasi automatique. Et puis nous faisons une erreur en pensant que nous sommes nos comportements. Nous ne sommes pas nos comportements. Nous avons des comportements et nous sommes quelque chose de bien plus grand que ça. Cette quête d'approbation peut prendre une place immense dans la vie des gens. Le nombre de stratégies mises en place pour se faire accepter, aimer, pour attirer la reconnaissance sont innombrables. La quantité de nos comportements sont issus de la peur de ne pas être aimé, de la peur d'être rejeté. Marianne Williamson, qui est un auteur très connu, américaine, a notamment écrit « Un retour à l'amour et un retour à la prière », et nous dit que derrière chaque défense se cache une terrible demande d'amour. Et elle nous dit qu'il n'existe que deux émotions, l'amour et la peur. Et l'EFT nous permet de travailler avec les différentes parties de nous afin de nous affranchir de nos histoires de peur. L'EFT nous offre cette possibilité de grandir et de changer les histoires que nous nous racontons. Une bonne quantité de personnes que je reçois mènent une lutte épuisante et insensée, pour pas dire un combat féroce depuis des années, faire des trucs pour faire bonne impression et être approuvée.
Oui, il est vrai que cette problématique est souvent rencontrée. Peux-tu nous donner un exemple d'utilisation de l'EFT et comment nos auditeurs qui seraient dans cette problématique pourraient l'utiliser?
Bien sûr. Je pense à une personne qui est venue me voir afin que je l'aide à résoudre un problème lié à sa gestion de temps. Elle avait beau faire de son mieux, les gens se plaignaient, voire la critiquaient, et elle-même ne savait plus quoi faire pour se sentir bien. Rapidement, elle a abordé son besoin de reconnaissance et ses formes de pensée qui l'empêchaient de dire non, tout simplement, et qui l'empêchaient de dire « je suis désolée, mais sinon, c'est pas possible ». Que ce soit auprès de son patron, de son mari, de ses enfants, de ses amis et jusqu'à sa voisine. Elle avait cette croyance que si elle refusait de rendre service ou de faire toutes les heures supplémentaires qui lui étaient demandées, si elle refusait de faire plaisir, qui n'était pas gentil, comme le cas du petit garçon tout à l'heure, si elle contrariait l'autre, il lui arriverait quelque chose de terrible. Alors nous avons abordé ensemble ce qu'on appelle les messages contraignants, et ce sont des messages qui ont été identifiés par les chercheurs de l'analyse transactionnelle. Alors je vais vous expliquer comment j'utilise un EFT, cet outil-là qui est un outil de coaching. Tout d'abord, je vais expliquer ce que sont ces messages contraignants. Ces messages contraignants, ce sont des messages qui ont été enregistrés dans notre inconscient, comme une petite voix qui est venue de l'enfance. On les appelle aussi des mots d'ordre. Ce sont des traces intériorisées d'anciens messages parentaux ou d'une figure d'autorité et qui formulent une condition à la reconnaissance. De ce fait, nous pensons que je suis OK, je suis quelqu'un de bien, si je réponds à ce message. Je serai aimé si je réponds à ce message. Chaque individu dispose d'un ou plusieurs messages contraignants qui s'activent surtout sous stress et bien sûr ils influencent le comportement. Alors, chacun se comporte dans la vie en manifestant tous ses mots d'ordre, tous ses messages contraignants. Il arrive parfois qu'un ou deux dominent. Les chercheurs en analyse transactionnelle ont identifié 5 messages contraignants fondamentaux. Donc, je vais vous donner ces 5 messages et avec les conséquences possibles pour chacun. Et ensuite, je vais vous donner les messages qui servent d'antidote à ces messages contraignants. Alors, pour ceux qui le savent déjà, il existe des tests pour identifier précisément quels sont le ou les messages très forts. Et dans le cadre de cette conférence, je vais proposer de noter celui qui résonne le plus pour vous. Pour ce faire, vous pouvez écrire le message. Vous pouvez écrire un message que je vais vous donner. Puis vous pourrez donner une note sur une échelle de 1 à 10. Une note qui va mesurer le degré de force de ce message pour vous.
Donc, sur cette échelle, 10, ça voudrait dire « oui, je suis complètement d'accord avec ce message ».
C'est ça.
Et 1, ça serait « non, c'est pas vrai, ça ne me concerne pas ».
Voilà, ce message est très faible, je le reconnais très peu dans ma vie. Mm-hmm. Le premier message, c'est « sois parfait ». Alors, la stratégie du « sois parfait », c'est qu'il va toujours vouloir faire mieux pour être reconnu. Toujours cette quête de reconnaissance, cette quête d'approbation. Donc toujours vouloir faire mieux pour être reconnu. Il vaut mieux faire les choses parfaitement plutôt que de les faire moins bien. Alors les conséquences, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait, qui vit dans l'anxiété de ne rien oublier. Il va développer une forme d'intransigeance vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. Il agit comme un bourreau de travail, très souvent. La croyance erronée forte pour lui, c'est qu'un être humain peut faire les choses à la perfection. L'antidote de ce message, son message permissif, c'est « je m'autorise à être moi-même et je me donne la permission d'être humain ». Donc pour vous, sur une échelle de 1 à 10, À combien pouvez-vous dire que ce message dirige une partie de vos relations et de votre vie? Sois parfait. Le deuxième message, c'est sois fort, que l'on nomme aussi ne montre rien. La stratégie de ces personnes, c'est qu'ils inhibent et n'expriment pas leurs émotions. Il est préférable d'être méfiant à l'égard des autres. Donc les conséquences, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses faiblesses, qui porte souvent un masque de dureté. Il va même montrer une façade dans la joie. Il refuse de se laisser aller et souvent il se cache derrière l'humour et l'ironie. La croyance erronée forte pour lui, c'est qu'il est important de faire croire qu'on est fort. C'est le message permissif, antidote, c'est « je m'autorise à exprimer mes sentiments ». Alors, ce message « soit fort » ou « ne montre rien » sur une échelle de 1 à 10, à combien pouvez-vous dire que ce message dirige une partie de vos relations ou de votre vie? Ça va, Maria?
Je note.
Tu notes. Le troisième message, c'est le « dépêche-toi ». Alors, la stratégie, c'est une personne qui vit dans l'urgence. Il vaut mieux aller vite ou se montrer pressé que de perdre son temps. Les conséquences, c'est qu'il est en retard. Comme ça, il tout le temps dans le dépêche-toi. Il va se mettre en retard pour pouvoir répondre à ses messages, pour être dépêche-toi. Il remplit donc trop son agenda, il court, il s'agite, il déplace beaucoup d'air. Il a un tonus en dents de scie, il est fatigué, puis dynamique, puis fatigué, puis dynamique. Et il ne peut faire les choses que vite, et puis il stresse les autres. Alors sa croyance erronée forte, c'est on ne fait bien les choses que vite. Le message permissif, l'antidote, c'est je m'autorise à prendre le temps et je profite du moment présent. Donc pour vous, dépêche-toi sur une échelle de 1 à 10. À combien dirige-t-il une partie de vos relations ou de votre vie?
Donc si le lapin du film Alice au Pays des Merveilles nous écoute ce soir, lui avec ce message-là, il est à 15 sur 10.
C'est ça, c'est le lapin.
Parce qu'il nous dit coucou dans le chat.
Ensuite, nous avons le quatrième, ce qui est le fait plaisir. Alors, la stratégie, c'est une personne qui occulte ses propres besoins pour faire plaisir à l'autre. Elle cherche à plaire à l'autre et devance même les besoins des autres. Il vaut mieux être bien avec les autres et pour cela se montrer dévoué, aimable et gentil à leur égard. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas refuser. Il dit oui quand il pense non. Il pense que s'il refuse quelque chose, il va faire de la peine. Il se frustre beaucoup lui-même pour ne pas décevoir et il se sent responsable des autres. Sa croyance erronée, forte, c'est qu'il y a un moyen de faire plaisir à tout le monde et qu'il est vital de plaire aux autres. Le message permissif, antidote, c'est « je m'autorise à penser à moi avant tout, je respecte mes besoins et mes valeurs d'abord ». Donc pour vous, ce message sur une échelle de 1 à 10 serait fort à combien? Ça me fait plaisir. Et ensuite, nous avons le dernier de ces messages, qui le fait des efforts, ou encore essaye plus fort. La stratégie, c'est que cette personne, qui pour atteindre ses objectifs, va toujours mettre un frein, il va compliquer les choses. Il va se laisser un petit palier entre ce qu'il atteint et son objectif. Pour lui, il est important de montrer qu'on essaye avec acharnement. Donc c'est quelqu'un qui va toujours ajouter des choses pour être dans l'effort. Il pense que l'effort est plus important que le quotidien. Il pense que faire des efforts, c'est plus important qu'atteindre son objectif. Donc pour les coachs, c'est pas très simple de travailler avec eux. Il faut vraiment dénicher ce message quand il est là. Sinon, le client n'atteint pas son objectif. Il est souvent proche d'atteindre, mais il n'y parvient pas. La croyance erronée, forte de cette personne, c'est que quelqu'un qui en bave finit toujours par réussir. Et il faut en baver pour apprécier. Il va se détourner des tâches qui lui paraissent simples. Si ça lui paraît simple, il s'en détourne. Le message permissif, c'est je m'autorise à être simple et je m'autorise à gagner. Donc pour vous, à combien ces messages-là vous semblent vrais, faites des efforts.
Mmh. Et en pratique, comment appliquer ces messages, comment utiliser ces messages, comprenons.
C'est-à-dire, les appliquer en coaching?
Oui.
En coaching, une fois qu'on les a découverts chez les gens, on peut les amener à développer les permissions qui vont atténuer ces messages-là.
Et on peut s'aider de l'EFT.
Et à ce moment-là, bien sûr, on peut s'aider de l'EFT. On peut considérer que l'aspect le plus négatif de ces mots d'ordre, c'est qu'ils empêchent de réagir aux circonstances de la vie d'une manière détendue et en osant être soi-même. Et de ce fait, ce sont des freins, c'est vraiment un frein très sérieux à l'épanouissement personnel. Mmh. Ces mots d'ordre créent l'illusion d'être la solution à pas mal de problèmes. Selon le message le plus présent dans la tête de quelqu'un au moment où on discute avec lui, c'est les petites phrases qui peuvent dire, on entend les gens dire que le monde irait mieux si les gens étaient plus gentils, par exemple. Mmh. Donc ça, c'est quelqu'un qui va être dans le fait plaisir. Ou si les gens ne perdaient pas tellement de temps. Ça, c'est plutôt quelqu'un qui a les messages, dépêche-toi. Si les gens n'avaient pas peur de faire un petit effort, le monde irait mieux. Donc c'est une personne qui va avoir fait des efforts importants. Si les gens ne se laissaient pas tellement aller à suivre leurs pulsions ou leurs sentiments, le monde irait mieux. Celui-là, c'est « sois fort, montre rien ». Ou si les gens réfléchissaient davantage, le monde irait mieux. Celui-là, ça serait « sois parfait ». Donc Maria, tout à l'heure, je t'ai vu noter pendant les messages, avec lesquels de ces messages aimerais-tu faire quelques rondes d'EFT justement pour…
Ben, comme tu disais, c'est vrai qu'ils résonnent tous plus ou moins. Enfin, pour chaque message, j'ai eu une situation très claire qui apparaissait. Mmh. Mais je pense que le travail le plus intéressant à faire, ça serait peut-être sur le soi parfait.
En plus, de faire un travail sur ce message-là va aider les perfectionnistes.
Tout à fait. Si par hasard, ce soir, on a un perfectionniste qui nous écoute, oui. Allons-y.
Voilà, qui tapote bien avec nous. En plus, c'est vraiment de travailler sur ce message-là, aide à renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Je m'en sers dans les ateliers que je peux faire mm-hmm. sur ce thème-là. Donc, j'ai proposé aux auditeurs de faire ce tapping en même temps. Et de toute façon, en tapotant ce message-là, on a tous quelque chose à dire.
Certainement.
Avant de faire le tapping, j'aime bien me poser une intention. C'est comme une demande à mon inconscient ou à ce qui est plus grand que moi. Est-ce que tu veux bien la répéter avec moi, Maria?
Mm-hmm, bien sûr.
Donc là, c'est juste une intention, je ne tapote pas forcément. Parfois, je le dis à haute voix avec mes clients, parfois, je le dis simplement dans ma tête. Et je dis ceci. Fais que cette séance se déroule pour mon plus grand bien.
Fais que cette séance se déroule pour mon plus grand bien.
Et pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées.
Et pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées.
Merci.
Merci. Bah, et j'ai envie d'ajouter les personnes passées, présentes et peut-être même futures.
C'est ça.
Que tu en penses.
Si tu veux. Quand je dis toutes les personnes impliquées, j'inclus toutes ces personnes-là à l'intérieur.
Oui, mais comme ces messages ont tendance à venir du passé, moi j'ai envie d'inclure les ancêtres.
Incluons. Voilà. Donc voilà, on va tapoter sur le point karaté. Et puis on va dire ceci. Même si j'ai une vieille habitude de soi parfait.
Même si j'ai une vieille habitude de soi parfait.
Je m'accepte.
Je m'accepte.
Complètement et totalement.
Complètement et totalement.
Même si faire les choses parfaitement me semble une absolue nécessité.
Même si faire les choses parfaitement me semble une absolue nécessité.
Je m'accepte complètement et totalement.
Je m'accepte complètement et totalement.
Même si je crois qu'il vaut mieux faire les choses parfaitement.
Même si je crois qu'il vaut mieux faire les choses parfaitement.
Je m'accepte tel que je suis.
Je m'accepte tel que je suis.
On tapote sur la tête. J'ai une vieille habitude de soi parfait.
J'ai une vieille habitude de soi parfait.
coin du sourcil, une vieille programmation de soi parfaite.
Une vieille programmation de soi parfaite.
Coin de l'œil, soi parfaite.
Soi parfaite.
Sous l'œil, j'entendais mon père.
J'entendais mon père.
Ou ma mère.
Ou ma mère.
Dire, ce n'est pas suffisant.
Dire, ce n'est pas suffisant.
Sous le nez. Et soi parfaite.
Soit parfaite.
Sur le menton, il faut être parfait.
Il faut être parfait.
Clavicule. Ce que je suis ou ce que je fais.
Ce que je suis ou ce que je fais.
N'est jamais suffisant.
N'est jamais suffisant.
Le point sous le sein. Je mets la barre bien trop haut.
Je mets la barre bien trop haut.
Sous le bras. Et du coup, je ne suis jamais satisfait.
Et du coup, je ne suis jamais satisfait.
Le point sur la tête. J'accepte de ressentir ce que je ressens.
J'accepte de ressentir ce que je ressens.
Le point du sourcil. J'accepte ma frustration de ne pas être parfaite.
J'accepte ma frustration de ne pas être parfaite.
Point de l'œil. C'est vrai, je ne suis pas parfaite.
C'est vrai, je ne suis pas parfaite.
Sous l'œil. C'est en tout cas ce que je crois.
C'est en tout cas ce que je crois.
Et ce que je ressens.
Et ce que je ressens en ce moment.
Sous le nez. Je ne suis pas parfaite.
Je ne suis pas parfaite.
Sur le menton. Et il me faut être parfaite.
Et il me faut être parfaite.
Clavicule. Je me trouve tellement de défauts.
Je me trouve tellement de défauts.
Sous le sein. Et puis j'ai toutes les bonnes raisons de croire ça.
Et puis j'ai toutes les bonnes raisons de croire ça.
Sous le bras. Et ça me décourage.
Et ça me décourage.
Le point sur la tête. J'accepte de ressentir ce que je ressens.
J'accepte de ressentir ce que je ressens.
Le sourcil. Mon désir de soi parfait ou soi parfaite.
Mon désir de soi parfaite
est animé d'une bonne intention.
Est animé d'une bonne intention.
De l'œil. Et pourtant, ça me crée souvent bien des problèmes.
Et pourtant, ça me crée souvent bien des problèmes.
L'œil. Sois parfaite, quel message quand même.
Sois parfaite, quel message quand même.
Sois parfaite parce que.
Sois parfaite parce que.
Et là, tu laisses monter les réponses dans ton esprit. Le point sur le menton. Fais les choses parfaitement.
Fais les choses parfaitement.
Parce que.
Parce que.
Le point sur la clavicule. Je sais que c'est irréaliste d'être parfaite.
Je sais que c'est irréaliste d'être parfaite.
Sous le sein. Et pourtant, je crois que c'est la meilleure chose à faire.
Et pourtant, je crois que c'est la meilleure chose à faire.
Sous le bras. Sois parfaite.
Sois parfaite.
Le point sur la tête. Et si j'ai accepté de lâcher juste un petit peu?
Et si j'acceptais de lâcher juste un petit peu?
Maintenant.
Maintenant.
Mon besoin d'être parfaite.
Mon besoin d'être parfaite.
Le point sur le sourcil. Et si j'acceptais de commencer à croire que.
Et si j'acceptais de commencer à croire que.
Ce que je suis.
Ce que je suis.
Est suffisant.
Est suffisant.
Ce que je fais ou pense.
Ce que je fais ou pense.
Est suffisant.
Est suffisant.
Tout en conservant mon besoin de progresser.
Tout en conservant mon besoin de progresser.
Au coin de l'œil. Et si j'acceptais maintenant d'être plus doux avec moi-même?
Et si j'acceptais maintenant d'être plus douce avec moi-même?
Sous l'œil. Et si j'acceptais mon humanité?
Et si j'acceptais mon humanité?
Sous le nez. Et si je lâchais un peu de mon exigence?
Et si je lâchais un peu de mon exigence?
Sur le menton, exigence vis-à-vis de moi-même et à l'égard des autres.
Exigence vis-à-vis de moi-même et à l'égard des autres.
Le point de la clavicule. Ok, je ne suis pas parfaite.
Ok, je ne suis pas parfaite.
Ici, c'était très bien comme ça.
Et si c'était très bien comme ça?
C'est ça. Ok, les gens ne sont pas parfaits.
Ok, les gens ne sont pas parfaits.
Et si c'était dans l'ordre des choses?
Et si c'était dans l'ordre des choses?
Le bras. Et si j'arrêtais de me battre contre moi-même?
Et si j'arrêtais de me battre contre moi-même?
Le poing sur la tête. Je suis digne d'être aimée pour ce que je suis.
Je suis digne d'être aimée pour ce que je suis.
Le point de sourcil. Je suis moi.
Je suis moi.
Exactement tel que je suis.
Exactement tel que je suis.
Point de l'œil. Je m'accepte à raison de 5% de plus.
Je m'accepte à raison de 5% de plus.
Sous l'œil. Je m'accepte à raison de 10% de plus.
Je m'accepte à raison de 10% de plus.
Sous le nez. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis aujourd'hui.
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis aujourd'hui.
Sur le menton. J'aime et j'accepte toutes les parts de moi.
J'aime et j'accepte toutes les parts de moi.
La clavicule. Je suis humain.
Je suis humain.
Et je m'accepte.
Et je m'accepte.
Avec mes imperfections.
Avec mes imperfections.
Sous le sein. Je continue à progresser joyeusement.
Je continue à progresser joyeusement.
Sous le bras. Je peux me construire.
Je peux me construire.
Je suis moi.
Je suis moi.
Et je suis OK.
Et je suis OK.
Voilà, Maria. Une inspiration. Une expiration. Alors peut-être qu'en tapotant cette série de phrases, certains ont senti des résistances, des oui mais qui seraient apparus. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait OK. Quand on travaille en EFT, ça fait remonter des « oui, mais non, je ne suis pas d'accord avec ce que je suis en train de dire ». Quand on tapote des phrases positives qui ne sont pas encore totalement acceptées, des parties de nous se manifestent et nous disent « non, 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 c'est pas vrai ».
Et c'est une bonne chose en fait.
Et en fait, c'est une très bonne chose. Là, pour une conférence comme ce soir, on essaie de faire des protocoles qui regroupent beaucoup de choses. On a tendance à aller un peu vite dans ces protocoles-là. C'est peut-être pour certains de nos auditeurs un peu trop tôt de tapoter sur des phrases comme « je suis digne d'être aimée exactement telle que je suis ». Donc des oui mais peuvent apparaître très forts en travaillant plus lentement et en faisant d'abord du nettoyage et en tapotant moins rapidement sur du positif, on a moins de oui mais, ou en tout cas ils peuvent être moins forts. Ce qui est important, c'est que ces oui mais, quand ils nous apparaissent, on puisse les noter et faire des rondes d'EFT dessus. L'EFT nous permet de faire remonter les oui mais c'est pas comme ça, des parts de nous qui contestent et qui refusent, qui vont refuser, je m'accepte tel que je suis.
Alors, ces oui mais, est-ce que tu dirais qu'ils viennent du passé, Noël?
Ces oui mais font écho à des expériences passées. Quand je n'ai pas d'histoire dans mon passé qui va faire écho à ce que je suis en train de dire, si je n'ai jamais eu de contestation en disant je m'aime, je n'aurai aucun oui mais quand je vais tapoter ça. Par contre, nous sommes tellement captivés par nos histoires de solitude et de rejet qu'on ne réalise même pas qu'elles appartiennent au passé. Quand nous comprenons que les histoires qui nous hantent aujourd'hui ne sont que ça, des histoires et des croyances qui nous viennent du passé, nous pouvons alors coexister avec les émotions qui se présentent maintenant. Nous croyons que nous sommes rejetés par les gens, mais c'est par moi-même, c'est moi-même qui me blesse en croyant ce que je pense. Katie Byron nous dit une chose que je pense essentielle, en tout cas qui était essentielle pour moi, c'est que nous avons des pensées qui nous viennent et que nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne choisissons pas nos pensées, elles arrivent tout simplement. Il est inutile de se battre contre elles puisqu'elles arrivent et que c'est la réalité. Elles sont là Et puis elles repartent. Et puis certaines ne repartent pas très vite.
Effectivement.
Alors, nous avons un choix formidable. Nous avons le choix de croire tout ce que nous pensons, ou bien de mettre ces pensées qui nous arrivent. Elle dit même, nous ne pensons pas, c'est comme si nous étions pensés. Elle dit, nous ne respirons pas, ça respire. Mm-hmm. C'est hors de notre champ de volonté. Mm-hmm. Et donc, on a le choix de croire tout ce qu'on pense, ou bien de mettre ses pensées en doute. Et en ça, les tapotements avec des phrases commençant par « et si » vont permettre à notre cerveau de réfléchir différemment. Et nous permettent de réfléchir à une autre façon de se raconter nos histoires.
Oui, et dans le tapping que nous venons de faire, effectivement, la phase « et si » vient comme une transition entre le négatif et le positif.
C'est ça.
C'est une phase d'ouverture.
C'est une phase d'ouverture. On commence à dire à notre cerveau « et si tu réfléchissais différemment mm-hmm. ?» Et si ce que tu es en train de penser, c'était pas vrai? Et si il existait un autre point de vue?
Mais on va pas lui dire de but en blanc, c'est pas vrai.
En fait, ce qu'il nous dit, Cathy Byron, c'est qu'il est inutile de lutter contre une pensée. Elle arrive et on regarde si la pensée opposée est aussi vraie que celle-là. Et si le cerveau conçoit que la pensée opposée peut être aussi vraie que ce qu'on est en train de penser, à ce moment-là, la pensée nous quitte d'elle-même. On n'a aucun combat, aucun effort à faire. Mmh. Il est complètement inutile de se dire, il ne faut pas que je pense à ça ou à ça, puisqu'on le fait. Mmh. C'est en ça que la solution n'est pas extérieure à nous-mêmes, que la solution, elle est vraiment intérieure. Il y a des croyances courantes sur l'amour, notamment, sur notre besoin d'approbation, qui ne sont quasiment jamais remises en doute. C'est des croyances de ce type-là. Alors, les enfants devraient aimer leurs parents. Si on interroge les gens, on va retrouver une très grande majorité qui vont prendre cette phrase-là pour vrai. Mm-hmm. Les parents devraient aimer leurs enfants. Les enfants devraient aimer leurs parents. Je ne veux pas paraître stupide. Mon rôle est de vous rendre heureux. J'ai besoin d'un partenaire pour être heureux. Je devrais être différente. Les gens devraient être reconnaissants. Mon patron devait m'apprécier, etc. Et si ces pensées et croyances étaient aussi vraies que leur opposé?
Et si?
Et si? De toute manière, on est forcé de constater que la pensée opposée est une réalité, puisqu'elle existe bel et bien. Donc c'est qu'elles sont bien réelles. Les enfants devraient aimer leurs parents. Oui, certes, mais il arrive que ce ne soit pas le cas. Mmh. Alors nous battre contre cette réalité, c'est ça qui nous mène à la souffrance. Constater qu'un enfant devrait aimer ses parents et que ce n'est pas le cas, c'est refuser d'accepter ce qui est. Et accepter ce qui est, ça ne veut pas dire approuver. Accepter, ça veut simplement dire... je reconnais ce qui est là. Nous avons plutôt appris à ne pas voir ce qui est, mais plutôt ce que nous croyons devoir voir. Dans les années 70, Virginia Satir, qui est une célèbre psychothérapeute américaine et qui est pionnière dans la thérapie familiale, elle a beaucoup travaillé aussi pour la PNL, elle a été un mentor pour la PNL, avait postulé 5 libertés que l'être humain devrait apprendre à se donner pour vivre pleinement. La première des libertés consiste à voir et à entendre ce qui est au lieu de ce qui devrait être, avoir été ou se produire. Accepter ce qui est, c'est être capable d'entrer en contact avec la réalité avec le minimum de filtres et de programmation mentale. On est des êtres excessivement programmés et conditionnés. Et c'est pas si simple, car notre interprétation fait obstruction. Nous voyons en fonction de ce que nous croyons que nous devrions voir. Cette première liberté, c'est voir et entendre ce qui est. Alors par exemple, ça va être une personne qui peut dire « je me fiche de ce que pensent les autres. Je me fiche de ce que les autres peuvent penser de moi. » Mais quand même, quand elle dit que je fais mal mon travail, ça me met en colère. Alors, il n'y a pas de solution possible lorsqu'on ne se permet pas de voir et d'entendre ce qui est. Utiliser la critique, c'est un excellent exercice. Est-ce que je peux voir et entendre ce qui se passe à ce moment-là, dans cette critique? Est-ce que je peux comprendre comment quelqu'un peut en venir à me voir comme ça? Puisque de toute manière, c'est ce qui se présente à moi. C'est un fait. Cette personne peut me dire « je trouve que tu ne fais pas ton travail ». Au lieu de me révolter et de lutter contre cette réalité, je peux me dire « tiens, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans ? » C'est une réalité, j'accepte qu'on puisse dire ça. Mm-hmm. Donc voilà, la première liberté, c'est voir et entendre ce qui est. La deuxième liberté, c'est oser dire ce que nous ressentons et pensons, au lieu de ce que nous croyons que nous devrions ressentir et penser. Les enfants reçoivent des messages, enfin nous recevons des messages nous signifiant que nous ne devons pas dire ce que nous ressentons ou ce que nous pensons vraiment. Ça commence vraiment tout petit.
Oui, c'est comme le petit garçon que tu citais tout à l'heure qui savait qu'il ne fallait pas dire qu'il était énervé, il fallait être gentil.
C'est ça, il faut être gentil. Au lieu d'apprendre à nos enfants à peut-être une autre façon de manifester, de dire l'énervement, plutôt que de se rouler par terre et de taper à coups de poing sur la table, on peut lui apprendre une autre façon de le manifester, mais certainement pas qu'il est méchant quand il manifeste cet agacement. Alors la communication honnête commence par la manière dont on communique avec soi, bien sûr. Cela veut dire répondre en fonction de sa propre vérité. Peu importe comment autrui réagira à la réponse. Il faut d'abord découvrir ce qui est vrai pour nous. Mmh. Alors imaginez simplement que vous disiez non à une demande. Et notez les peurs qui surgissent et en particulier celles qui ressemblent à des « si je dis non », il ne m'aimera plus. Ou si je dis non, elle pensera que je ne l'aime pas. Mmh. Et nous recevons de nombreuses demandes tous les jours. Et quand on pense que la réponse honnête pour nous, c'est non, nous pouvons l'exprimer avec de l'amour en même temps. Nous pouvons dire merci pour cette proposition, mais c'est non. Ou bien je comprends tout à fait ta demande, mais c'est non. On peut dire aussi « je t'aime beaucoup, mais c'est non ». Il y a des façons tout à fait non brutales et amicales de donner un refus.
Et la troisième liberté?
La troisième liberté, c'est se permettre de ressentir ce qu'on ressent plutôt que ce qu'on croit qu'on devrait ressentir. Dans un couple, par exemple, il arrive que l'un des conjoints ne ressent plus d'amour pour l'autre, et il arrive qu'il se persuade qu'il doit ressentir cet amour. Ça va être des personnes aussi qui vous disent j'ai tout pour être heureuse, je ne le suis pas. Et donc elles peuvent être dans le déni de je suis malheureuse, elles vont vous dire non, non, moi tout va bien, elle doit être heureuse puisqu'elle a tout ce qu'elle a. Donc cette troisième liberté, c'est se donner l'autorisation de ressentir ce que vous ressentez réellement et noter au besoin les jugements qui vous viennent à l'esprit. Et ça, ce sont d'excellents messages à tapoter. Puis vient la quatrième liberté, qui est vraiment importante, c'est demander clairement ce que nous voulons au lieu d'attendre. Trop nombreux sont ceux qui n'ont pas appris à demander clairement ce qu'ils désirent. Ils vivent mal parce qu'ils s'interdisent de dire leurs besoins et leurs désirs. Si vous ne communiquez pas clairement, vous risquez de passer votre vie à être mal aimé, incompris, sans jamais prendre conscience que si vous disiez simplement ce que vous voulez, la vie pourrait être complètement transformée. Demandez clairement, vous évitera d'essayer de manipuler l'autre à travers des messages codés, en jouant des victimes, en essayant de culpabiliser, et tout en vous sentant mal aimé. J'ai des exemples de personnes qui me disent Oui, mon mari devrait passer la tondeuse, il ne le fait pas, ça m'agace, il devrait le voir tout seul. Et simplement, je leur dis, est-ce que vous lui avez demandé? Mais j'ai pas besoin de lui demander, il devrait bien le voir tout seul. Et ça peut vraiment, juste ça, ça peut décoincer des malentendus, des quiproquos, des... On peut être très surpris. On se raconte encore une fois de plus des histoires tout seul dans notre propre tête. On se raconte des histoires d'horreur. Et dès qu'on commence à changer ces histoires et à demander tout simplement, on s'aperçoit que notre demande est beaucoup mieux accueillie que ce qu'on se racontait. Alors quand vous demandez ce que vous voulez, il est important aussi de prendre conscience que les autres ne sont pas toujours capables de le satisfaire, ni disposés à le faire. Dans ce cas, c'est simple, demandez-le à quelqu'un d'autre ou demandez-le à vous-même. Entraînez-vous à demander. Par exemple, demain, demandez quelque chose à 3 ou 4 personnes. Essayez de le faire en communiquant clairement et simplement, sans vous montrer gentil, ni manipulateur, ni attentionné. Juste une demande claire. Si vous n'arrivez pas à le faire, rien qu'à l'idée de l'imaginer, observez vos peurs, notez-les, et l'EFT est vraiment là pour nous aider. Enfin, il y a la 5e liberté. C'est prendre des risques en son propre nom, au lieu de chercher la sécurité et l'immobilisme. La vie, c'est vraiment le mouvement. On a besoin de se sentir en sécurité, bien sûr, mais rester dans l'immobilisme par besoin de sécurité, c'est vraiment pas une solution. On peut vraiment passer à côté de sa vie, juste parce qu'on a eu peur de prendre des risques. Et on a le droit, on a déjà le droit d'entreprendre, d'agir et de prendre des risques calculés. On a besoin, en tant qu'adulte, d'autorisation de plus personne. Ça encore, ça peut être des enfants, ça peut être notre part de nous qui a 2, 3, 4 ans, qui continue à se raconter ces histoires que j'ai pas le droit, je suis un petit ou une petite. Et si vous pensez que vous n'avez pas droit, donnez-vous-le dès maintenant.
D'accord. Donc ces 5 libertés, une fois de plus, nous ramènent à l'importance d'accepter ce qui est et de nous occuper de ce sur quoi nous pouvons agir, de nos propres affaires.
Tout à fait. Nos propres affaires. C'est nous occuper de nos propres de ce qui nous concerne. Et d'accepter ce qui est, c'est vraiment des clés très très importantes. Kitty Bayron, elle nous parle de ça très très bien. Pour elle, il y a 3 sortes d'affaires. Il existe mes affaires, les vôtres et celles de Dieu. Pour elle, Dieu, c'est tout ce qui est hors de notre portée. Ça peut être un séisme, un tremblement de terre, voilà, tout ce qui est vraiment très loin. Notre malheur vient du fait qu'on va s'occuper de tout ce qui n'est pas nos propres affaires. Elle nous dit que si on vit mentalement dans les affaires des autres, on ne s'occupe plus mentalement de nos propres affaires. Et si je vis votre vie, qui va s'occuper de la mienne? Qui va vivre la mienne? S'occuper des affaires des autres m'empêche d'être là, à penser aux miennes. Et penser savoir ce qui est le mieux pour les autres, ça c'est le comble de l'arrogance. Et à la longue, est-ce que je peux vraiment savoir ce qui est le plus important pour vous et de comment vous devriez vivre votre vie? Comment je peux vraiment savoir comment devrait être le monde? Elle nous dit que cette arrogance-là nous rend soucieux, anxieux et tendus. Si je suis dans les affaires des autres, qui va s'occuper des miennes? Alors, la prochaine fois que vous sentirez un état de séparation ou de solitude, on peut se poser la question dans quelle affaire je suis. Si quelqu'un se sent mal, c'est l'affaire de qui? C'est mon affaire ou c'est la sienne?
Ou bien celle de Dieu.
Ou bien celle de Dieu.
Parce que parfois, nous nous évertuons à vouloir faire le travail de Dieu. Et ça peut fatiguer.
C'est très fatigant, c'est épuisant, ça ne marche pas. On peut l'essayer longtemps, ça ne marche pas. Ça ne nous rend pas plus heureux, ça ne rend pas plus heureux la personne qu'on a en face. Voilà, dans quelle sorte d'affaires je suis. J'explique ça dans mes séances de coaching ou de EFT. Et les gens comprennent très bien que le seul pouvoir que l'on a, c'est de s'occuper vraiment de nos propres affaires. Alors je peux faire des rondes un peu provocatrices en disant, même si j'ai un petit dictateur à l'intérieur de moi qui sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour ma mère, ma soeur, mon patron, je m'accepte comme ça. Notre job, c'est d'être nous-mêmes. Et si on laissait enfin les gens libres de penser ce qu'ils pensent, de toute façon, c'est ce qu'ils font déjà. Donc, laissons les gens penser ce qu'ils pensent et prenons un peu de recul par rapport à ça. Et si on arrêtait nos manœuvres pour paraître ce que nous ne sommes pas? Par ces manœuvres de séduction, on essaie de prendre le contrôle sur les autres. Et par besoin de quoi au juste? Avons-nous plus d'approbation en nous cachant à nous-mêmes et aux autres? Ça, mon expérience et quelques lectures m'amènent à réellement à penser que la réponse est non. On n'a pas plus d'approbation. Et en tout cas, quand on obtient cette approbation-là, on n'y croit pas une seconde. Qui seriez-vous si vous cessiez de penser que vous devez faire bonne impression? La première fois que j'ai lu cette phrase, ça a été vraiment libérateur pour moi. Je me suis vraiment posé cette question. Et si j'arrêtais de penser que je devais faire bonne impression? Et puis j'ai cessé de temps en temps dans la journée, j'ai cessé de vouloir faire bonne impression. Et c'est vraiment très reposant. Alors toutes ces questions sont là pour nous faire prendre conscience que toutes ces histoires qu'on se raconte, elles ne sont pas forcément vraies. J'aime beaucoup Katie Byron qui me dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Elle dit, je sais très bien que tout le monde m'aime et je ne m'attends tout simplement pas à ce qu'ils en soient déjà conscients et c'est ok comme ça. Chacune de nos croyances déclenche en nous une pensée amène une émotion amène un comportement, nos comportements deviennent nos expériences. Et la somme de toutes ces expériences crée ce qu'on nomme notre réalité. Alors si nous arrivons à visiter nos croyances, donc nos pensées, nos émotions se transforment d'elles-mêmes. Pour connaître nos croyances, il suffit de répondre à la question « pourquoi ?» ou de faire une affirmation qui va se terminer par « parce que » et de terminer la phrase avec ce qui vous vient. Justement, la croyance de Katie Byron, c'est que elle sait très bien que tout le monde l'aime. Ça lui procure une émotion qui est liée à cette pensée. Et de ce fait, il n'y a plus besoin de quête d'amour puisqu'elle l'a déjà. Et comment sait-elle qu'elle l'a déjà? Mais simplement parce qu'elle le ressent. L'EFT nous permet d'effacer nos perturbations dans notre système énergétique. Il nous permet d'avoir accès à d'autres perceptions du monde. Il nous permet de laisser apparaître notre nature joyeuse qui est cachée derrière des perceptions qui sont peut-être erronées mais qu'on se croit absolument vraies. Je voudrais conclure par ceci. C'est que changer un peu, c'est changer beaucoup. Je reçois beaucoup trop de clients qui essaient de changer énormément de choses. Commençons par changer un peu. Remarquons-le. Soyons fiers et contents de ça, et c'est déjà changé beaucoup. C'est un peu comme si on partait avec la sensation d'avoir une énorme baleine à manger, et on n'en mange pas dans le pouce. Mangeons la baleine à la petite cuillère. Ça nous permet d'être doux avec nous-mêmes. Soyons doux avec nous-mêmes, un pas après l'autre, une chose après l'autre, et tout simplement. Comme l'ont dit beaucoup de conférenciers, tapotons simplement un peu tous les jours, beaucoup tous les jours, comme vous voulez, faisons-le un peu. Donnons-nous des autorisations de ce qui nous manque à notre bonheur d'aujourd'hui. Si on nous a refusé des choses étant petit ou petite, ben donnons-nous des autorisations. Je m'autorise à être plus heureux, c'est déjà un bon départ. Autorisons-nous à ne pas avoir raison ça peut être aussi un bon début de travail. Et souvent, si on regarde bien, on préfère avoir raison qu'être heureux. Et là, on a un vrai choix à faire. Quand on se dispute avec des gens, quand il y a des conversations qui tournent pas très bien, à la dispute et au conflit, juste posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fait que je m'accroche à mon besoin d'avoir raison? Et le fait juste de penser, ben, je lâche mon besoin d'avoir raison, calme immédiatement les conflits. Regardons autour de nous et acceptons ce qui est, et racontons-nous de belles histoires, et réécrivons les histoires du passé que nous nous racontons au présent. Utilisons l'EFT pour réécrire notre perception du passé, et utilisons l'EFT simplement, mais régulièrement, pour nous libérer de nos pensées stressantes. Car ce qui nous stresse le plus, ce n'est pas tellement les événements en eux-mêmes, mais c'est la perception que nous en avons.
Oui, et là-dessus, bien sûr, l'EFT peut changer beaucoup de choses.
J'aime beaucoup un livre de d'Yves Alexandre Talman, et voici le livre le titre de ce film. Si les gens heureux ne s'inquiètent pas de savoir si c'est vrai, ils se racontent de belles histoires. Commençons à nous raconter de belles histoires.
Et malheureusement, on voit surtout l'inverse. Les gens sont malheureux parce qu'ils se racontent des histoires pas
Drôle.
toujours très belles.
Tapotons avec eux.
Voilà, changeons nos histoires. Merci Noël pour toutes
Merci.
ces pistes, toutes ces phrases, ces bonnes questions à se poser pour tapoter.
Merci Maria.
Nous allons voir les questions de nos auditeurs.
Tout à fait, avec grand plaisir.
Et nous allons passer aux questions. Qu'est-ce que tu as choisi comme question, Noël?
Alors, je vois une question, moi, que je trouve très intéressante. C'est Emerita qui dit, au fond, on devrait être un peu plus égoïste et penser à nous-mêmes en premier lieu. C'est vrai que on pense souvent qu'être égoïste, c'est quelque chose de mal. On nous l'apprend. En France, on est dans un milieu vraiment imbibé par le catholicisme. Il ne faut pas être égoïste. Encore faut-il savoir ce qu'on met derrière ce mot égoïste. Si c'est penser à l'autre avant soi, il vaut mieux commencer par être bien soi avant d'essayer de rendre les autres heureux. Et rendre les autres heureux devient naturel. J'explique ça souvent à mes clients. Quel plus beau cadeau on peut faire aux gens qu'on aime, sinon être heureux soi-même. Les gens qu'on aime, on aime les voir heureux. Rendez-vous heureux, rendez-vous heureuse vous, et les gens que vous aimez, vous pourrez les aider, ne serait-ce que par ce que vous êtes et ce que vous émanez, et de ce qui émane de vous. Soyez le plus heureux possible et le bonheur des autres viendra en suivant.
D'accord. Alors, nous avons d'abord un commentaire et ensuite une question de la part de Juliette qui écrit que pendant la conférence, elle a été interrompue deux fois par sa fille et que les deux fois, elle s'est entendue dire « Sois gentille ». Et par rapport à ce commentaire, elle pose la question « Comment rectifier le tir par rapport à ça ?» Parce qu'elle se rend compte qu'en fait, depuis longtemps, elle lui dit souvent. Est-ce qu'il faut me tapoter? Est-ce qu'il faut tapoter ma fille? En disant quoi?
C'est vrai que quand on dit un message, on l'a tous, toutes, beaucoup entendu, en tout cas pour beaucoup. Sois gentille, aide-moi, sois gentille, n'aie pas ce comportement. L'enfant va associer le fait d'être quelqu'un de gentil avec un comportement. Il vaut mieux dire, si l'enfant s'énerve, au lieu de lui dire ne t'énerve pas, en employant une forme négative, il vaut mieux lui dire reste calme. Si un enfant crie, plutôt que de lui dire ne crie pas, puisque ou de lui crier dessus, de lui crier dessus en lui disant ne crie pas, c'est souvent ce qu'on fait, plutôt que de lui dire de ne pas faire quelque chose, demandons-lui de faire quelque chose. Je comprends que tu sois en colère, mais est-ce que tu pourrais essayer de rester calme ou d'exprimer ta colère d'une autre façon.
de ne pas associer un comportement avec le fait que l'enfant est gentil ou méchant. Les enfants, ils sont assez binaires, ils n'ont pas un grand vocabulaire, ils comprennent bien que gentils, ils vont être aimés, méchants, ils ne vont pas être aimés. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Par rapport à l'EFT, ce qu'on peut faire, c'est tapoter ce qui apparaît. Même si tu es en colère, même si tu te sens en colère, je suis une merveilleuse petite fille ou je suis un merveilleux petit garçon. Même si tu n'as pas envie d'aller te coucher, tu es un merveilleux petit garçon. Et tapoter, ou avec l'enfant s'il veut bien, ou le parent peut se tapoter sur lui, ou tapoter sur l'enfant.
Oui, et dans ce cas précis, Juliette, peut-être déjà tapoter sur votre réaction, même si ça m'agace, que ma fille me dérange pendant la conférence. Je m'aime et je l'aime. Et nous sommes toutes les deux des filles super. Moria se demande justement comment tapoter sur ce qui vient d'être dit. Quel est le rapport avec l'EFT? C'est vrai que nous avons fait un protocole d'EFT sur le message contraignant « Sois parfaite ». Donc ça, c'était un exemple. Et Noël, est-ce qu'on pourrait faire une ronde ou deux par rapport aux cinq libertés dont tu as parlé avec la chimie et la satire?
Oui, on peut faire des rondes. Comment tapoter un EFT sur tout ce qui vient d'être dit? Si on prend les cinq libertés, voir et entendre, la première liberté, c'est voir et entendre ce qui est au lieu de ce qui devrait être, avoir été ou se produire. En fait, c'est vrai qu'on a souvent répété tout au long de ces conférences, le plus simple étant de tapoter ce qui apparaît et construire ses phrases tout seul. Et je sais qu'au départ, c'est vraiment difficile. On se demande est-ce qu'il faut tapoter. Mais si on prend ces cinq libertés, on va tapoter sur tout ce qui peut faire obstacle au fait que je vois et j'entends ce qui est. Tout ce qui va être un obstacle à acquérir cette liberté-là peut être tapoté. Alors, ça peut être, même si je refuse d'entendre cette critique qui vient de m'être dite, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je refuse d'entendre ma mère dire ça de mon père, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'est vraiment aller tapoter sur tout ce que je me dis, tout ce que je pense, tout ce que je ressens et tout ce que je crois, et qui m'empêche de voir et d'entendre ce qui est réel, là, maintenant et devant moi. C'est pareil, la deuxième liberté, c'est oser dire ce que nous ressentons et pensons. Tout ce qui va m'empêcher d'oser dire ce que je ressens, toute pensée, croyance, comportement, je peux aller le tapoter dessus. En fait, il suffit de s'observer, d'observer les pensées qui nous viennent à l'esprit et qui nous empêchent d'acquérir ces libertés-là. La troisième liberté, pour la reprendre, c'est se permettre de ressentir ce que l'on ressent. Les gens qui sont déconnectés de leurs émotions, c'est un peu plus difficile pour eux peut-être d'avoir accès à l'EFT, en tout cas c'est ce qu'ils croient. Donc, allons tapoter des phrases, même si je ne me permets pas de ressentir quoi que ce soit en ce moment, je m'aime et je m'accepte. Même si... je me dis que je devrais être heureuse alors que je ne le ressens pas, je m'aime et je m'accepte. Moi, je fais une différence entre ce que je pense, ce que je crois, ce que je fais et ce que je ressens. On peut penser quelque chose et dire autre chose. On peut penser quelque chose et dire autre chose. On peut penser quelque chose et ressentir autre chose. Je sais qu'il est absurde d'avoir peur de monter dans un avion et pourtant j'ai peur de monter dans l'avion. Mon cerveau mental sait que je ne devrais pas avoir peur, et pourtant c'est ce qu'il se produit. Donc je tapote sur mes émotions et sur ce que je ressens. Ce qu'on cherche à faire, c'est à ressentir des émotions agréables. C'est ce qu'on cherche le plus souvent.
Oui, c'est vrai que plusieurs personnes dans les questions-réponses ont dit comment faire de l'EFT alors que j'ai l'impression d'être coupée de mes émotions. Donc la première étape, ça peut être, même si j'ai l'impression d'être coupée de mes émotions, je m'autorise, je prends la liberté de ressentir ce que je ressens.
Tout à fait. Il y a des gens qui ont peu d'émotions. C'est vrai, c'est un fait, c'est comme ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui ont trop d'émotions, qui ont des émotions très très fortes. J'étais parmi les gens qui avaient des émotions très très fortes. C'est sûrement pour ça que je me suis dirigée vers un métier comme celui de coach, comme celui d'ostéopathe, pour essayer d'aider des gens. Sur Internet, j'aime bien aller sur Facebook de temps en temps, et il y a un coach qui s'appelle Monsieur André de Châteauvieux qui a dit quelque chose de formidable. Il a dit on a le métier de ses symptômes. Regardez le métier de quelqu'un et vous comprendrez peut-être mieux qui il est.
Tu oses dire ça devant cette assemblée de coachs et de thérapeutes et de praticiens en bien-être, non ? Allez, continue à nous parler de la quatrième liberté. Qu'est-ce qu'on peut t'apporter en rapport avec demander clairement ce que nous voulons ?
Demander clairement ce que nous voulons, tout ce qui va nous empêcher de demander clairement ce que nous voulons. Alors, c'est aussi des pensées du style, mais il devrait le savoir. Je ne devrais pas avoir besoin de lui dire.
Vraiment, il irait dans mes pensées.
Ça. C'est tout à fait ça. Mais s'il m'aimait, il devrait faire ceci, il devrait faire cela. Ben non, c'est pas la réalité. On peut dénouer de grands conflits inutiles juste en demandant ce que nous voulons vraiment. Je vois dans le chat qu'il y a des gens qui parlent de Thomas d'Antesbourg, qui est effectivement quelqu'un qui nous parle de la communication non violente. J'ai eu la chance de le rencontrer à Montauban cette année. Et la communication non violente s'appelle, il commence à l'appeler maintenant, la communication consciente. Parce que ce terme de non-violence, ça ne leur plaît pas trop. Voilà, il y a déjà une négation dedans. Donc aujourd'hui, on va appeler ça de la communication consciente. C'est quelque chose dont je me sers beaucoup et à titre privé et dans mon cabinet. Voilà, demandez clairement ce que nous voulons. Donc, si vous voulez aller acheter des bouquins de communication non violente, on mettra les références dans la page de référence, dans la page ressources, livres, qui est déjà en place depuis quelques instants, et on rajoutera des livres de Thomas. Et puis, la cinquième liberté, c'est prendre des risques en son nom propre. C'est la vie, en fait. J'ai mis longtemps à le comprendre et à m'en apercevoir, mais la vie c'est un jeu, la vie c'est une expérience, c'est rien de plus. Donc faisons des expériences, il ne peut pas nous arriver grand chose de très très grave. Peut-être que le plus grave qui peut nous arriver c'est mourir, mais bon, on verra. Aujourd'hui et maintenant, c'est occupons-nous déjà de ça, d'aujourd'hui et de maintenant, et faisons des expériences. Donc, prenons des risques calculés. L'être humain a besoin de se sentir en sécurité. Et la sécurité, c'est pas quelque chose qu'on trouve à l'extérieur de soi. La sécurité est un état interne. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir en sécurité? C'est pas forcément mettre des verrous partout, des cadenas. C'est pas forcément ça. De quoi ai-je besoin pour pouvoir me sentir en sécurité? Et une fois qu'on a ce sentiment de sécurité, à ce moment-là, on peut prendre des risques à la hauteur de notre sentiment de sécurité. Un livre qui m'a appris beaucoup sur ça, c'est un bouquin qui s'appelle « Trembler mais oser ». La peur nous empêche de vivre notre vie, on peut tapoter sur ce qui nous fait peur. La peur va diminuer et on pourra prendre plus de risques et avoir une vie plus épanouie. Et puis, prendre des risques renforce de beaucoup la confiance en soi. La confiance en soi se développe en agissant, pas en pensant. La pensée doit servir l'action, sinon ça ne sert pas à grand-chose.
D'accord. Alors, une dernière question de la part de Pax. En tant que parent, je suis souvent dans la dualité, gentil, méchant. Pax, moi aussi, je suis parent. C'est vrai que c'est très facile de tomber là-dedans. Comment prendre conscience, enfin non, maintenant je vais prendre conscience de ce que je vais exprimer à mon enfant. Noël, doit-on faire un sérieux changement de langage dans l'éducation des enfants?
Je pense que les mots sont très importants. Les mots définissent en nous un état interne. Les mots que l'on prononce, on les a pensés avant. Quand je dis « courage », j'ai immédiatement un état interne qui vient s'associer à ce que je pense. Je pense et de dire le mot nous met dans un certain état interne. On ne peut pas changer du jour au lendemain parce qu'on est vraiment conditionné. Et un conditionnement, ça ne s'enlève pas du jour au lendemain. On entend souvent ce truc de dire « il faut pratiquer 21 jours pour que ça devienne une habitude ». Alors, c'est vrai, mais c'est aussi, ça, on peut aussi passer beaucoup plus de temps à enlever des conditionnements qu'on a, c'est des réflexes, des habitudes. Commençons petit, commençons par une chose. Remarquez quelque chose que vous dites souvent, une, et chaque, mettez-y des clochettes au bout, et chaque fois que vous le direz, vous vous apercevrez que vous êtes en train de le dire, et vous rectifiez. Et petit à petit, vous vous apercevrez que vous avez de moins en moins besoin de rectifier, parce que vous le dites de moins en moins, et peut-être qu'un jour, vous apercevrez que vous ne le direz plus. On a intériorisé des langages, qui étaient d'abord de l'extérieur vers l'intérieur. On a nos parents qui nous ont répété, et beaucoup plus que 21 jours, des choses. Et on les ressort à notre tour parce qu'on en a fait notre propre langage interne. Donc, prenez une chose ou deux, pas plus, et travaillez dessus à fond. Je me surprends encore à dire des choses que je souhaite ne plus dire, mais chaque fois que je les dis, je m'entends les dire et je rectifie. Ça, je pense que c'est un bon début. Et une fois qu'il y en a un qui est comme ça, qui est déprogrammé, on peut en choisir un autre. Puis l'EFT est excellent pour déprogrammer, donc on peut tapoter sur, même si j'ai ce mot-là qui me vient sans arrêt à l'esprit, même si j'étais programmée entre à dire des mots tels que gentil, méchant, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et puis c'est un travail. Malgré tout, c'est un travail. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a un petit prix à payer, c'est la persévérance. De la conscience et de la persévérance.
Et merci beaucoup, Noël, pour toutes ces réponses et toutes ces pistes.
Merci beaucoup à vous tous d'être là pendant ce contrat et merci beaucoup à toi.
Et merci à tous nos auditeurs, voilà, qui continuent à poser des questions. Je vous rappelle, comme d'habitude, que les questions pourront se poursuivre sur le blog. Et le blog que vous trouverez sur le site du congrès, bien sûr. Cette conférence sera en réécoute d'ici un quart d'heure, le temps de mettre la salle en place. Et vous y trouverez également la conférence de Bianca tout à l'heure. Coucou à Bianca qui est là. Oui, alors, Noël me pose une question en live direct, c'est pour ça que je suis un peu perturbée là. Il reste quelques questions en suspens. Jacqueline et Mérita, je crois, disaient qu'on aurait voulu tapoter sur les 5 libertés. Eh bien, puisque c'est comme ça, on y avait déjà pensé en fait. Demain soir, retrouvons-nous dans la salle verte à 19h pour la surprise des chefs. Avec Noël, nous allons ouvrir le chat et nous allons répondre à toutes les questions qui n'ont pas trouvé réponse. Nous pourrons tapoter aussi si vous avez des suggestions. Sachez que ce n'est pas toujours facile de tapoter en improvisé devant 500 personnes, mais nous ferons de notre mieux. Nous allons nous tapoter aussi. Donc rendez-vous, un rendez-vous supplémentaire, vous êtes les premiers en avant-première à en entendre parler, demain soir à 19h. Juste avant la conférence qui promet d'être grandiose avec Marc Robertson sur le tapping tambour, où nous allons combiner les tapotages traditionnels avec les doigts avec le tambour chamanique. Et ça, je vous conseille vivement d'y être. Merci à tous, nous allons nous arrêter là pour ce soir et je vous donne donc rendez-vous demain. Bonne soirée.